Assalamu alaikum, c'est la nuit à répondre consolatoire par un chemin, ils partiront par sept chemins. Vous avez le cela. Et effectivement, ils sont partis dans sept pays arabes différents, mais l'état-major a fini. Vous avez le cela. Bon. Alors, c'est une coïncidence, purement et simple. Enfin, c'est un joli miracle que vous voulez vous raconter. Alors, avant de lire le Zohar, qui m'apporte la partie du Zohar, c'est dans la deuxième bibliothèque derrière, ça s'appelle le Pirush HaSulam, de la paracha de Vaera. C'est pas, le livre, c'est pas par parachute. Vous cherchez le 7e ou le 8e livre, sinon c'est le 6e ou le 9e, mais c'est à peu près la paracha de Vaera. Dans le Zohar. Pas du Tanakh, pas de la tradition juive, c'est de la poésie israélienne.
Ah, oui.
Et ça vient, je pense, ça vient de la tradition chrétienne de la vie. Alors ça me ramène de la on a traduit avec un tas. C'est joli d'ailleurs. Parce qu'en hébreu, dans cette traduction, il y a un autre sens que promis. Mouftahat, ça veut dire c'est assuré. Batoua. Et si je veux dire que je veux que ça arrive un jour, la terre de la sécurité. Mouftahat, c'est assurance touristique. Et alors là, on revient à ce miracle que je voudrais vous lire. Toute la vie de Bereshit.
Il y a eu des études récemment en Scandinavie,
Démographes, pardon, que les Canadiens viendraient.
J'ai lu ça comme ça. Et ça se dit à ce que j'ai lu. Et puis aussi en Scandinavie, il y a des gens qui
les femmes
qui sont
des hommes,
c'est pas
la
date. On dit que les enfants de femmes, et après la tour de Babel, ils étaient devenus des femmes.
Ah,
ils ont les femmes
qui n'ont
pas
d'autre savoir,
puisque les
Scandinaviens. Ça expliquerait les conceptions matrimoniales de la Scandinavie. Et la. En fait, il y a la migration. Alors, j'oublie ce migrage, qui est d'ailleurs le deuxième migrage du migrage Rabat, sur le début de Bereshit. Vous trouvez ? Là, il y a là. Rabbi Yoshua de Sifni, Beshem Rabbi Levi, Pata. À chaque fois qu'un ouvrage commence par Pata, ça veut dire qu'on va donner une préface à un enseignement. Ticha, on est juste une préface. Mais d'où vient l'origine de l'utilisation de ce terme? C'est que dans les ouvrages, il y a deux méthodes. Soit Patar Kraya, le araméen, ça veut dire il a Patar, du même tout à l'heure, les poucrines, les explicateurs, et il a expliqué le verset. Dans le sens étymologique du mot, expliquer, ça veut dire dépouiller. Patar, ça veut dire il a ouvert le verset pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Soit Patar, il a ouvert le verset pour dire plus qu'il y a dans le verset, pour que le verset parle en dehors. Bon, je reviens. Donc Patar Khaya, on dit. Il écrit un verset de Tilling, un verset de Tsion, qui dit quoi, Maasa, dit le hameau, la force de ses actes, il explique à son peuple. La tête la haine n'a pas la bruine pour leur donner l'héritage des nations. Un verset hermétique pour lui-même. Je le reprends. Koach Maasa Avidi Léamo, la force de ses actes, il explique à son peuple. La tête la haine n'a pas la bruine pour leur donner l'héritage des nations. C'est un des midrashim sur lesquels Rashi s'est basé sur sa première explication de la Torah pour ceux qui ont étudié dans son commentaire. Alors, l'exprimer le Midrash. Mata'am gila kadosh baruch hu l'Israël. Pour quelle raison Dieu a révélé à Israël ma shenivra bayom harishon, ce qui a été créé le premier jour, ou ma shenivra bayom hasheni, et ce qui a été le deuxième jour. Et ça veut dire tout ce récit historique qui va depuis la création jusqu'à la sortie d'Égypte, et après seulement il y a les mitzvot. Vous vous rappelez de cela? Vous vous rappelez? C'est-à-dire, Rashi a posé sa question à sa manière. C'est la même question à sa manière. C'est une des choses de Rashi. La réponse est ni peine au des kochavim ni mazalot. Ça veut dire à cause des idolâtres. Pourquoi à cause des idolâtres? Shelohi Moni et Israël, pour qu'ils ne contestent pas Israël, Véomrim Laël, en leur disant, Halo Kumash et Bazozim Atem, n'est-ce pas que vous êtes une nation de pillards, une nation de. Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, de. Ma. Non, de. Pillards, je crois que c'est le terme. Prendre le bien d'autrui. Hein. Rachid emploie un autre terme, il dit. N'est-ce pas que vous êtes brillants parce que vous avez pris la terre des sept peuples, et il y a les Cananéens, etc. Alors, aujourd'hui, on dit plus listine, évidemment, on dit impérialiste, ça revient au même. C'est toujours raciste qui prévoit ça. On dit aussi colonialiste. Listine. Et ici, c'est bazozim. Bizarre, ça veut dire faire une razzia. Donc, les pillards. Mais Israël et Chili Montagne, alors Israël leur répondront, vous aurez une marine en leur disant Batem, halo, bezouza, hibiatrem, et vous, n'est-ce pas que c'est une rapine que vous avez entre les mains? Halo, et notez si vous voulez le verset, n'est-il pas écrit dans Dvarim, chapitre 20, verset 23. Kaftorim, hayotzim, mi kaftor. Kaftor, c'est la crête. Eh bien, ça ne se trompe pas. Kaftor okay. La crête. Okay. Les crétoires. Et vous rappelez que la civilisation crétoise était une civilisation d'antiquité qui était très forte. Et d'ailleurs, c'est à ce propos que tu as cité tout à l'heure, il s'agissait effectivement d'Européens du Nord arrivés jusqu'à la crête, qui est une civilisation donc japonique. Et ils avaient conquis la terre des Hébreux, d'après le verset de Devarim, chapitre 20, verset 23, « Kastori mayotim di kaftor » les Crétois sortis de Crète, « Ishnidoum » ont détruit le peuple qui habitait ce pays, « Vayeshenu tartam » et se sont installés à leur place. Mais quel est l'argument? C'est que lorsqu'on viendra dire à Israël « Vous êtes des pillards parce que vous avez pris une terre qui n'est pas à vous », alors, on leur répondra, mais n'est-ce pas que vous-même, vous avez pris par la. C'est clair ? La fin ? Et là, alors là, nous l'avons chez la famille de Dieu, mais le monde et tout ce qui l'emplit appartient à Dieu qui l'a créé, que chez Ratsa, lorsqu'il a voulu, Netana Lachel, il vous l'a donné, ou que chez Ratsa, lorsqu'il a voulu, Netana Mirkin, il a pris de vous, Netana Lanou. Et c'est ça qui est écrit à Daoud et Fou, la tête, la haine, la chalat, goïn, koach ma'asa, bidilam, pour pouvoir leur donner, c'est-à-dire fonder en légitimité de la terre que les goïms réclament comme leur héritage. Et est-ce que c'est clair? Je vais changer un peu la traduction du verset. Nachalat goïm, l'héritage des nations, ça veut dire ce que les goïms considèrent comme une nahala, la terre que les goïms considèrent comme leur héritage, et ça, c'est un des versets qui nous renvoie au problème. Général de cette étude, pourquoi l'égoïne réclame cette paix. Vous avez une petite réponse tout à l'heure, si je peux, un problème mystérieux. Et donc, le Midrash inverse l'ordre du verset, la tête la haine nachalat goïne, pour pouvoir leur donner, c'est-à-dire légitimiser le don qu'il leur donne de l'héritage des nations, Kohar Mahasa de Guilherme, il a raconté à son peuple la force de ses actes. Ça veut dire donc que la raison pour laquelle, me dit ce Midrash, duquel s'inspire Rachid dans son commentaire, la raison pour laquelle la Torah est précédée par le récit de l'histoire depuis la création jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est pour pouvoir légitimiser l'entrée des Hébreux sortant d'Égypte dans l'Eretz Israël. Parce que la Torah, c'est elle-même, le Midrash, Rashi 1000 ans, le Midrash 2000 ans, la Torah 4000 ans, okay, qu'au moment où Israël sortant d'Égypte voudra rentrer en Eretz Israël, et ça veut dire dans l'histoire, au moment où le peuple d'Israël, sortant de l'exil, voudra rentrer dans Eretz en chemin de sel, il y aura une contestation générale. Mais vous êtes des pillards. Je reprends ce problème très brièvement, une autre étude avec Rashi. Et Rashi se base sur ce Midrash pour dire c'est la raison pour laquelle la Torah commence par donner l'enseignement de la création du monde. Rappelez-vous. Il n'était pas nécessaire de commencer la Torah, sinon par la première des mitzvot donnée à Israël à la sortie de l'Égypte. Or, à la sortie d'Égypte, il fallait éclairer l'événement. La première des mitzvot donnée à la sortie d'Égypte commence par le verset suivant. Et Dieu s'adressa à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en leur disant, et les mitzvot commencent par le mot de Pessah. Et donc il était nécessaire d'éclairer qui c'est Moïse, qui c'est Aaron, qu'est-ce qu'ils font en Égypte. C'est-à-dire, a posteriori, il raconte toute l'histoire depuis le commencement de l'histoire du monde. C'est bien clair ? Donc cette préface était nécessaire. Et là, je cite plus Rachid, mais d'autres commentateurs qui nous disent, il était nécessaire que les goïms qui croient en l'autorité de la Bible sachent comment Dieu donne une terre à qui il la promet, à qui il la donne. Parce que c'est écrit dans cette Bible, mille fois. Rappelez notre Midrash, décrit, comme j'ai dit à Israël, regardez mon texte, que ce texte concerne les descendants des patriarches, et tout le monde le sait. Mais la contestation des goïms n'est pas que cette terre appartient au peuple d'Israël. La contestation, c'est qu'Israël l'a prise par la force, alors qu'il devrait l'attendre, je raccourcis le raisonnement, comme un héritage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nachalat goïm, la terre que les goïms considèrent comme un héritage. Je reprends le raisonnement le raccourcissant. Cette espèce de invraisemblance, pourquoi le monde entier refuse cette terre à Israël, alors que tout le monde entier sait que c'est la terre d'Israël. Et quelles que soient les explications secondes, partielles qui sont données, le fond du problème reste. Oui. Corollairement, il y a le doute d'Israël lui-même, et ça j'en parlerai encore après. Il y a le peuple d'Israël, c'est le problème de la formation du désert. Vous avez remarqué, nous sommes en plein dans le sujet. C'est que, d'accord, c'est la terre que Dieu vous a promise, c'est là le terme de promise, et alors attendez qu'il vous la donne, mais vous l'avez prise par la terre. L'expression que dit Rashi, c'est l'istimatem se kabashtem. Vous êtes des brigands parce que vous avez conquis par la force. Vous avez compris quel est l'argument ? C'est-à-dire que ça évacue la vraisemblance première. Pourquoi tu as besoin du verset de la création du monde, alors qu'il te suffit de citer les 1000 versets de cette même Bible, de cette même Torah, où Dieu dit, cette terre, je la donne à Abraham, Isaac et Jacob, et à la descendance de Jacob, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Fils d'Isaac, fils d'Abraham, un point. Vous comprenez ? Il semble que dans la réponse, Israël ne cite pas le verset qu'il faut. C'est clair ? Si déjà, il s'agit de goyim qui sont sensibles à un argument tiré de la Bible, alors cite des versets qui sont argumentables. Mais ne leur cite pas un raisonnement théologique, toute la terre appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. Vous avez compris le. C'est parce qu'en réalité, la contestation des goïms n'est pas tellement que cette terre a été promise à Israël, mais la manière dont Israël doit la recevoir. Une fois, quand j'ai étudié ce texte, j'avais dit cette expression, si ça me rappelle, Dieu vous l'a promise, et bien attendez qu'il vous la donne sur un plateau d'argent, le plateau du Golan. Et c'est exactement la conception de la théologie des goïms. Ce que Dieu promet, il le fait. C'est pas ? Oui, oui, je ne pensais pas à eux, j'y pensais pour moi. Oui, la contamination de cette mentalité. C'est-à-dire, si vous vous renseignez la différence d'attitude théologique chez les goïms parlant de ce que Dieu donne et de la Torah, c'est un point important à éclaircir, ce que Dieu donne, il le donne par grâce. Alors que pour la Torah, ce que Dieu donne, il le donne à qui le mérite. J'ai compris la différence. Elle est totale. Okay. Alors, l'argumentation des goïms, nous l'entendons aujourd'hui. On l'entend aussi chez ces juifs religieux-là. Cette terre, c'est sûr que c'est la terre d'Israël, mais il faut attendre que Dieu la donne. Et comment il la donne ? Ah ! Et alors, là, il en fait. Comment il la donne ? Comment Dieu donne la terre ? Alors, il y a un aspect que je vais citer de mémoire, vous n'avez pas lu, vous allez le chercher. Dans précisément ce récit de la manière dont Dieu a créé le monde, il y a un verset dans lequel Dieu promet la terre à Adam Arishou, au premier homme. Et il dit, Vaibarech Elokim, Vaibarech Otam Elokim, Vaiomer Laem Elokim, et Dieu les bénit, Adam et Chava, et il leur dit, Perou Urbu, croissez et multipliez, je vais traduire comme ça, Milou et Taharet Yoshipchoua. Remplissez la terre et conquérez-la. Chapitre 2, verset 8. Je reviens là-dessus après. Voilà ce que Dieu dit au premier homme. La terre est à vous. Remplissez-la et conquérez-la. Milou est à Aret, Yeshua. Alors regardez que Rashi a utilisé intentionnellement, dans l'argumentation des Goïm, le terme qu'emploie la Torah pour dire comment Dieu donne sa terre à qui il la donne. C'est clair ? Rachel avait dit, l'istimatem, vous êtes des brillants, c'est kabashtem parce que vous avez conquis par la force la terre et cette peuple. Et cette peuple qu'on a vu tout à l'heure. La question sur Rachel c'est pourquoi citer le verset de la création du monde ? Cite-leur les versets où Dieu promet la terre au Aaron. si déjà ils sont sensibles à un argument tiré de la Bible, donne-leur un verset qu'il est clair, mais tu passes par un raisonnement. C'est pour ça qu'il est écrit ce que Dieu a créé au premier jour, ce que Dieu a créé au deuxième jour, pour comprendre que toute la terre lui appartient et la donne à qui il la mérite. Mais ça, c'est un langage juridique. Hein. Et alors, nous trouvons le verset où Dieu donne la terre à l'homme, en général, et dans ce verset est employé le même mot qui est employé dans les contestations d'égoïsme. Je reprends le verset, « Milou et Taref l'Echit Shua », c'est-à-dire « amplifier la terre et conquérez-la ». Quelle était l'argumentation d'égoïsme ? C'est vrai que théoriquement, cette terre est à vous, vous n'avez pas le droit de la prendre. Attendez que Dieu vous la donne. Or, Rachid nous dit, répondez-leur, puisqu'ils croient dans cette Bible, par le verset qui a écrit à propos du fait que Dieu donne la terre à l'homme. Et qu'est-ce qu'il a écrit ? Comment Dieu donne la terre à l'homme ? En lui disant, voilà, la terre est à toi, prends-la. C'est clair ? Remplis-la et conquère-la. Vous croyez dans cette Bible? Alors voilà comment Dieu donne la terre à qui il la donne. Pas comme vous dites, attendez-la sur un plateau messianique. Vous avez compris le problème? Je voudrais citer ici, avant d'aller plus loin, une explication du rabbin Wiener qui m'a beaucoup frappé. Parce que ces juifs religieux, ces théologiens non juifs, ont raison. C'est Dieu qui donne la terre. Et il faut attendre que Dieu la donne. Mais là où ils sont dans l'erreur, c'est qu'ils comprennent une erreur théologique. Ils ne comprennent pas comment Dieu donne la terre qu'il promet. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Vous vous rappelez la problématique d'hier soir, mais je vais expliquer pour ceux qui sont là. Lorsque Abraham a parlé de la position des Néphi Regatta par rapport au sionisme, il dit voilà, l'horreur du sionisme, c'est que c'est l'homme qui a pris ce que Dieu devait donner. C'est clair ? Bon. Alors, ce que Dieu devait donner, ils ont raison. Où ils ont peur, c'est qu'ils ne savent pas comment Dieu donne ce qu'il donne. Les sionistes laïcs, de la conférence de la semaine dernière, disaient on ne peut plus attendre que Dieu donne, il faut le prendre. Le Rafouk a dit qu'à faire, c'est ça qu'il faut faire. Mais nous, tout le monde a dit bouh, peu. Parce que les deux sont dans l'erreur. Les laïcs croient que c'est eux qui l'ont pris. Et les religieux, les religieux croient que ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Voilà, il faut faire un peu cet effort-là pour arriver à penser en juif. Okay. Alors, c'est clair. Vous vous rappelez cette anecdote, il s'agit encore de Scandinaves que j'avais cité souvent à Mariano dans tout cas. Après la guerre des civils, c'était dans les années, un journaliste scandinave, je ne sais plus s'il était finlandais ou autre chose, il a remarqué son point de vue sur Bernadette. C'est ça. Mais à l'époque, Bernadotte, c'était Suède, la Suède. Suède. Et alors, pour revenir au problème, c'est lui dit. Il y a un journaliste finlandais qui a demandé à Moshe Dayan à faire la décision. À Moshe Dayan. Un journaliste scandinave, je ne sais pas si c'est finlandais, je crois qu'il était suédois. Oui. Alors, il a dit. Une question un peu maligne, vous ne croyez pas que Dieu vous a un peu aidé ? Et mon cher Dayan a répondu, vous avez compris, c'est nous qui l'avons un peu aidé. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je vous rappellerai cette anecdote du Rav Avinien, je pense qu'il a dû l'entendre du Rav, et il disait ceci, il y a dans le Kriyat Shema, il arrivera, si tu accomplis mes commandements, je donnerai ta récolte en son temps. Alors un juif pieux est allé dans son champ, il a pris un tabouret, il s'est assis, il s'est mis à attendre. Vous vous rappelez ? Et il raconte pour les autres, il est passé un autre juif pieux qui ne faisait pas partie du même parti et qui lui a demandé qu'est-ce que tu fais ? Il dit ben, j'attends la récolte. Il dit comment ? Ben, c'est écrit. Si vous avez pratiqué mes commandements, je vous donnerai votre récolte. J'ai pratiqué les commandements, j'attends la récolte. Alors l'autre lui a dit et si tu prenais une pioche, une pelle, de la semence et que tu te la fasses ta récolte ? Ah bien, non, c'est Dieu qui devra donner. Oui, il s'agit de croyants incroyants. Hein. Comment Dieu donne les choses qu'il donne. Vous avez compris le problème hein. C'est clair. Alors voilà, on est devant une sorte impossible d'expliquer aux uns et aux autres que les deux ont tort parce qu'ils n'ont que la moitié de la raison. Je sais pas comment dire. C'est clair. Et je vais raconter une autre anecdote que j'aime beaucoup parce que c'est là, c'est ma petite fille qui me l'a raconté il y a des années quand elle était au Tirol. Et qu'il y a un juif, vous connaissez cette histoire ? Vous l'avez raconté. Ah, c'est la et je vous entends, avec l'hébreu des gosses israéliens. Un juif qui allait tous les jours au Kotel pour mettre un petit papier, mon Dieu, fais-moi venir à l'autre. Et alors, ça a duré longtemps, longtemps, et finalement, un des anges a dit, mon Dieu, pitié de lui, il est tellement pieux, le Kotel, le papier. Et donne-lui, fais-lui gagner à l'autre. Alors Dieu lui a répondu, ici, commencez par prendre un billet. Voilà. Vous comprenez l'idée. Ça veut dire, Dieu a dit à Israël, cette terre, elle est à toi, je te la donne. Et Israël attend. Attends quoi? Donne-la-moi. C'est aussi qu'il la prenait. Voilà, vous avez compris.
On a le précédent, maintenant, dans la Bible, on raconte d'abord, Abraham est parti d'El Eretz-Kanaan. Il a été un chemin. Ça fait chapitre 11, et le chapitre 12, il y a l'air là-bas.
C'est-à-dire en réalité, je connais juste un peu cette terre qui a fait l'initiative après le verset dans le chapitre 11, dans la fin du chapitre 11, et Dieu se révèle à Abraham pour dire c'est bien ça qu'il fallait faire. Voilà, je crois que c'est ça le fond du problème. Toute cette controverse, est-ce que c'est Dieu qui fait, est-ce que Dieu qui ne fait pas, est une controverse de deux ignorants de la théologie. Et ceux qui ne croient pas et ceux qui y croient. Comment Dieu fait ce qu'il fait? C'est-à-dire quand Dieu dit je vous donnerai la pluie en son temps. Okay. Alors lorsque la pluie tombe, c'est Dieu qui la donne. C'est bien. Bon. Alors de la même manière, ça veut dire je vous donnerai cette terre en son temps. Et lorsque la terre peut être prise, c'est Dieu qui la donne. Parce que l'argument qu'il a ajouté, pendant 2000 ans, on ne pouvait pas. Et puis voilà que subitement on peut. Alors je vous ai dit maintenant, je sais que j'étais là hier soir, qu'est-ce que j'entends par une argumentation passionnelle, ce que les logiciens appellent la logique affective, la logique des avocats. La logique des savants, c'est qu'on raisonne pour arriver à une vérité qu'on ne connaissait pas. Il y a des prémices du raisonnement, conclusion qui fait apparaître la vérité. La logique affective, c'est qu'on connaît à l'avance ce qu'on veut démontrer. Par exemple, on ne peut pas raisonner avec des avocats. Bon, les avocats, c'est un, comment dire, un métier très, très, comment dire, honorable, hein, mais il faut se méfier de la logique affective. C'est une passion. Et alors, quand on leur dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez faire l'effort de comprendre que c'est par l'État d'Israël que Dieu nous a donné la terre d'Israël, que c'est Dieu qui l'a donné, si vous êtes croyants, si ça peut être. Et ils répondent, non, nous sommes croyants, c'est le diable, c'est pas Dieu. Je suis une épreuve, rappelez-vous ça. Dieu vous a mis une épreuve, voilà, je vous donne une terre qu'il faut refuser, refusez-la. Vous avez vu la logique affective. Vous avez vu la logique affective. Alors c'est dans cette Sarat Sroura qu'on se trouve encore. Et je crois que c'était le Rav Sarlat qui avait dit ça. Il y a ceux qui croient au miracle, mais qui ne voient pas que le miracle est arrivé. Et il y a ceux pour qui le miracle est arrivé, mais qui ne voient pas que c'est un miracle. Vous avez compris. D'ailleurs, il y a une phrase du Talmud qui dit « En ba'alnes matir beniso ». Celui à qui arrive un miracle est incapable de voir que le miracle est arrivé. Heureusement qu'il y a des voyous pour nous expliquer que c'est un miracle. Je reviens bien. Donc à notre question, dans le verset qu'il y a dans le livre de Bréchy, dans le premier chapitre de Bréchy, regardez bien que l'ordre est anormal. Le verset veut dire qu'il fut à carré de l'univers. Conquérir la terre et remplissez-la. C'est clair. L'ordre est anormal. Qu'est-ce que ça veut dire remplissez la terre et conquérez-la? Et vous remarquez que c'est comme ça que, à la sortie d'Égypte, avec Josué, ça s'est passé. Les Hébreux se sont débrouillés pour rentrer dans le pays. Et après, il y a eu les guerres. Rappelez, et que de notre temps c'est la même chose. Toutes les guerres d'Israël, ça fait aller du centre à la périphérie. Alors les guerres de conquête, ça va de la périphérie au centre. J'ai compris la vie. Ça veut dire que là, il y a un éclairage qui est donné par le Midrash. Ce qui est très impressionnant, c'est que c'est de ça que s'occupe le Midrash dès le début du commentaire de la Torah. Il dit, bon, nous avons un problème. Qui est pourquoi la Torah a une préface historique au lieu de commencer par les Hébreux. Et voilà ce que font les Midrash, parce que quand les enfants d'Israël sortiront d'Égypte, sortiront d'exil, on leur contestera la terre. C'est clair? Et donc il fallait raconter l'histoire. Alors je vais citer Nahmani sur ce commentaire de Rashi sur ce Midrash. Et Nahmani reprend le verset d'Exode. Et il dit, qu'est-ce que dit le verset? Koach ma'asa avidi le hameau, la tête la haine nachalat voyou. Et Nahmani l'explique, il faut comprendre les hameaux. Ne croyez pas que c'est écrit dans la Bible pour convaincre les goyim, parce que c'est beau être écrit dans la Bible, ils ne sont pas convaincus. C'est qu'il faut convaincre les juifs eux-mêmes. Et moi j'ajoute, et même pour les juifs, bien que ce soit écrit, ça finit pas par le convaincre. Est-ce que c'est nécessaire? En fait, quand nous sommes devant un problème où ni de recours au texte, ni de raisonnement, ça veut dire ni l'érudition scripturaire, comme disait le rabbin, ni l'idéologie théologique ou pas théologique, n'arrive à donner une réponse à ce problème. Parce que on a beau leur donner les textes, ils ne peuvent pas les lire. Quand j'aurais dit, mais oui, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais mon rabbin m'a dit autrement, alors lui, c'est son rabbin, il est plus vivant, alors on ne peut plus parler avec lui. Mon rabbin m'a dit au XVIIe siècle que la logique avec lui. Et puis, ni le raisonnement, ni le recours au texte. Il y a une option d'attitude à l'avant. Ça nous renvoie à notre problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que si l'option de la génération de la certitude était d'entrer avec Israël, ils n'auraient pas eu besoin d'explorateurs. Et le seul fait qu'ils aient besoin d'explorateurs, c'est que déjà on sait que c'est une catastrophe. Vous avez compris le problème? Je vais revenir après sur le. Sur le texte, et rapidement j'ai le droit à vous citer. Regardez Rachid. Non ? Ça veut dire, comment ? Ça veut dire que ça dévoile le but. Je me rappelle une histoire du début du Sionisme que racontait le rabbin Azan, je ne pourrais pas vous dire les noms exacts. C'était un rabbin, je crois, des chassidim d'Europe centrale, qui avait envoyé ses élèves en Eretz Israël tout au début de ce qu'on appelait la colonisation. Et Dieu sait que c'était difficile et rare. Je crois qu'ils étaient arrivés dans les marais du Roulet. À l'époque, il fallait assécher des marais, et il y avait les moustiques, la malaria et tout ça. Et à l'époque, après l'histoire du Chou, il y avait que c'était très très difficile de faire ça à l'IA. Il ne fallait pas être fou comme aujourd'hui, il fallait être complètement fou comme dans ce temps-là. Si on y allait par intérêt. Si on venait, par intérêt avec les difficultés qu'il y avait, c'est encore une histoire, il faut être fou, okay, c'est clair. Bon, par conséquent, ceux qui disent mais il y a des difficultés, c'est qu'ils sont partis, parce qu'il y a des difficultés. Mais ceux qui viennent par intérêt, et pas parce que c'est la terre d'Israël. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je vais vous raconter une anecdote de ce genre, mais le stichum de la sortie pourrait vous en raconter sans doute. Et alors, la. On va en raconter quand même, parce que ça m'est resté dans la mémoire. Il y a 5-6 ans, j'étais dans une communauté de la banlieue de Paris, une petite communauté de la grande banlieue d'ailleurs, un nom impossible à me rappeler, une petite communauté avec une petite synagogue. Et puis, j'étais invité par le rabbin de parler de Torah. Et alors, il m'a dit, ça fait ici, il vaut mieux pas parler d'histoire, parlez-leur de Torah. Bon. Alors, bien entendu, bien entendu, j'ai parlé que d'Israël. Et alors, chaque fois que le rabbin me regardait, il disait le verset Torah. Et alors, à la fin, il y en a un qui se lève, et je vous garantis que non seulement c'est authentique, mais c'est vrai, Il m'a dit, monsieur le rabbin, c'est très bien tout ça, mais dites-moi, est-ce que vous avez le tiercé en Israël? Vous pouvez le citer en mon nom. Ça m'est arrivé, j'ai géré. Alors, j'étais pris de court. Il m'a fallu quelques secondes pour me rappeler qu'est-ce que c'était le tiercé. Et alors, j'ai dit, écoutez, si vous attendez le registre d'Israël, le tiercé, ne venez pas. Et je crois que dans la salle, beaucoup de gens ont compris. Il faut être fou pour venir chez lui. C'est à Paris, vous avez dit, dans l'ordre et dans le désordre. Voilà donc le problème. De quoi nous parlons? Oui, prenez le Rachid sur notre premier verset de la paracha. Et on va prendre sur le mot de Anachim. Oui, c'est sur le verset 2, le dernier Rachid sur le verset 2. Koulam, non, c'est pas, c'est dans le verset 3, pardon. Koulam Anachim, dans le verset 3. Koulam Anachim, on y est? Dans Rachid. Kol Anachim, Sheba Mikra, chaque fois que le texte emploie l'expression de Anachim, la chaune Fashivut, c'est-à-dire qu'ils ont une grande importance. Vous vous rappelez, une personnalité. La chaune Fashivut. Le Tasha'a, Kseri Maï. Et à ce moment-là, ils étaient cachés. Et quelle est la question à laquelle je réponds? C'est comment le texte les appelait de Anachim, alors qu'on va voir qu'ils vont être traîtres à la promesse que Dieu leur a faite. Alors là, je l'explique. Premièrement, en Achim, c'est des gens importants, des princes, vous rappelez. Et à ce moment-là, ils étaient cachés. Arrivés dans le pays, ils sont devenus pas cachés. C'est joli ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous raconte donc, j'ai fini cette histoire. Et ils sont devenus pas cachés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ce pays, c'est impossible. L'expression est extraordinaire que dans la paracha vous l'aurez trouvé, Eretz Ochelet Yosherea. C'est un pays qui mange ses habitants. Ben, normalement, c'est les habitants qui mangent le pays. Mais Eretz Ochelet, nous avons vu les gens qui habitent dans ce pays, Amshinudo, c'est des géants. Il faut être géant pour vivre dans ce pays. Alors c'est vrai, c'est un pays de abattre à la bête. Vous rappelez tout le temps, c'est vrai, c'est un pays où il sait le lait et le miel. Mahani Yehuda, il y a beaucoup de touristes qui me disent, mais c'est ce que vous avez. Donc vous taillez dans son pas. Et alors, pas trop bien. Ça va jusque-là? Alors, je vous dis donc cette histoire que j'ai entendue du rabbin Azan, quand ce rabbin Chassid a envoyé ses élèves. Finalement, et à l'époque, le courrier, les communications, c'était quelques mois après, il reçoit un premier rapport. Où tu nous envoyais à la mort? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Et alors, il y a la famine, problème économique. Il y a la famine, il y a la maladie, problème des hôpitaux. Il y a. Qui nous a envoyé une vertu. Il leur envoie un courrier en lui disant, comme vous êtes bien heureux de pouvoir enfin arriver dans le pays que Dieu a promis. Et alors, il leur a dit, il y a deux manières de dire la vérité. Il y a une manière qui mène à la vie et une manière qui mène à la mort. Il dit, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est ça le pays que vous dites. Vous avez compris le fait. Donc là, il y a une chose de tri qui se trouve dans tous les cas. Et je crois vraiment que à quel point on est privilégié de venir après, parce qu'en ce temps-là, c'était comme ça. Et de venir après, et chaque fois, il y a le même problème. C'est-à-dire, n'importe quelle petite difficulté repose les mêmes questions. C'est-à-dire que c'est vrai ce que la Torah dit de ce pays, mais les deux choses à la fois. Et alors, les deux choses sont vraies. C'est vrai que c'est le pays que, mais c'est vrai aussi que. Et alors, c'est une question d'attitude, une question de tout. Donc, à la racine même, il y avait un problème. C'est clair? Je vais vous dire très, très rapidement, c'est ceci. Et sans reprendre tout le problème du RRA, dont nous avons certainement suffisamment parlé dans d'autres parachutes, mais simplement je le rappelle, sont sortis d'Égypte les enfants d'Israël qui étaient concernés par ce pays, puisque la promesse était faite, la donation était faite à leurs ancêtres. Vous rappelez du verset. Et Keret Knaan, Acheranou, Noten, Ibné, Israël, Mekouda. Et puis sont sortis aussi le RRA, qui était en fin de compte concerné par la Torah, mais pas par Eretz Israël, puisqu'il n'était pas d'Eretz Israël. C'est bien clair. Ça, c'est là. C'est bien clair. Par conséquent, lorsque vous entendez Erevra, dans ce problème, ça veut dire, et je vous cite le pshat de la Torah, ceux qui ont accepté la Torah ne pas Eretz Israël. J'ai pas dit, parce que j'en sais rien, si leur origine c'était des non-hébreux ou des hébreux. Hein. Mais c'est un problème de situation existentielle. D'accord, j'arrive. C'est comme pour la faute du vote. L'initiative vient du RFA et Israël est pris dans la même chose. L'initiative vient du RFA et si vous avez dans le fait, le peuple dit ah, c'est comme ça, on ne va pas y aller, on va pas aller à la mort. Hein? Et les enfants d'Israël se laissent influencer par. Il y a des migrations très profondes qui disent le Satan a intérêt à ce qu'Israël ne rentre pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tant qu'Israël n'est pas en Eretz Israël, la Shrina n'est pas dans son endroit, là-haut. Et le Satan a intérêt à ce que la Shrina ne soit pas dans son endroit là-haut. Alors le Satan a intérêt à ce que Israël n'entre pas en Eretz Israël. Il se déguise en Talmid Chacham et il leur explique comment au nom de la Torah il ne faut pas rentrer en Eretz Israël. Le Satan, vraiment la Mechita, le Midrash. Avec en général, je vous cite que des citations. Top. Ma. En général, quoi? Oui, les gens disent le contraire. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez dans toutes les synagogues du monde dans les synagogues religieuses orthodoxes, super-orthodoxes, ultra-orthodoxes, anti-israéliennes. Ça y est, les rabbins, cette semaine, vont faire une dracha brillante sur la faute des explorateurs qui n'ont pas voulu, les ingrats, le pays. Oui, vous voyez que c'est la même situation. C'est du délire. Il n'y a pas de... Chaque fois qu'on entend une dracha pareille, et on entend ces rabbins insulter les gens qui ne veulent pas accepter les Israéliens. Ces rabbins-là qui interdisent à leur vie de... C'est-à-dire... Peu importe quelle, les stratégies du Satan, peu importe. Ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte de la contradiction délirante dans laquelle ils se trouvent, mais c'est votre question. Comment, c'est votre question. Comment se fait-il que les Gdolé Israël disent le contraire de ce qu'ils font au nom de la Torah? Mais Rachid vous a dit, en ce temps-là, ils étaient psaumés. Dès qu'ils parlaient avec Israël, comment on vient ici, j'ai oublié. Sous le trait.
Je reviens finalement à la problématique
de Satan, mais ça ne
peut
pas se et ça s'appelle c'est ça. La force du Satan, c'est de rendre réel ce qui aurait pu être que des calomnies. Je m'explique. Ça veut dire on pourrait prouver les calomnies. Bon, il y a des gens qui ont un intérêt. Des intérêts, comment est simplement des intérêts, c'est des calomnies. Il y a des gens qui ont des intérêts à ne pas venir en Israël. Alors, pour pouvoir accomplir leurs intérêts, ils vous inventent des théories. C'est ça la force du Satan. Ils rendent réel des suspicions qui auraient pu n'être que des calomnies, mais je vais continuer. Vous avez compris ce que je veux dire, je ne voudrais pas être. Je me rappelle de quelqu'un, mais qui était. Je pourrais même vous donner son nom si ça vous intéresse, parce que c'est le contraire d'une calomnie, comme on dit un chevard, une louange. Quelqu'un qui était professeur d'université en France, d'ailleurs. Et puis, il a décidé un jour de faire ça à lui. On lui a dit ici, mais qu'est-ce qu'il va faire? Professeur d'université en France, qu'est-ce qu'il va faire dans l'université en Israël? Il fait recommencer ses études, etc. Il a dit balayeur des rues, mais je viens. Alors qu'il y en a d'autres, et je pouvais vous donner son nom. Alors il est venu pour être balayeur des rues, c'était nécessaire. Il est un des grands professeurs d'université en Israël. Vous avez la première. Vous d'autres qui viennent et qui disent j'ai un diplôme de rabbin que. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Instituteur. Ah non, retourne. Vous avez raison. Alors, c'est une question d'attitude, c'est tout. C'est Marassé Satan. Il rend réel ce qu'on pourrait avoir pensé être des calomnies. C'est clair, c'est tout. Et c'est vrai, quand on arrive ici avec un diplôme de rabbin ou même de grand rabbin, on peut n'avoir pour place réelle, concrète, qu'une place d'instituteur. C'est vrai. Mais alors, si on dit, alors je ne veux pas, je reviens, je retourne, c'est ce problème. Le Zohar dit pas travera Béret Israël, ça veut dire pas travera, comment je vais dire, un pain détruit, travera, un pain en ruine, ça veut dire un pain rassis, un pain sec en Béret Israël et pas trachera Béret Israël. Alors si on va dire, comment expliquer ça? Eh bien qu'on peut avoir des postes, il y a des intérêts nobles, hein, des postes d'intérêts nobles chez les Goïs qu'on n'aurait pas en Béret Israël, c'est de la calomnie. Mais sauf ça, de quoi il s'agit? Donc, c'est ça la parole du Satan. Alors, la parole du Satan, qui compatait un des midrashim de Marassé Satan, de ce qu'on a fait, la Hakadah Yitzra, qui est traduit par la Zephyr d'Isaac. Quand Abraham a entendu Karna et Pincha et Pincha, Aleusham et Ola, le Satan s'est déguisé en Tamil Chacham et a dit à Abraham: qu'est-ce que t'as dit le Satan? C'est le Satan qui parle. De quoi le Satan? C'est Dieu que j'ai entendu. Comment Dieu t'a parlé comme ça? C'est le Satan qui t'a parlé. Vous avez compris le stratégie du Satan? C'est clair.
Il avait expliqué comment il s'adapte que pour éprouver.
Il y a sept
fonctions.
Il y a sept fonctions. Il y a sept fonctions du Satan. Une d'entre elles, c'est de mettre à l'épreuve le sadique, parce que, dit le Midrash, on ne met à l'épreuve qu'un métal précieux. Un métal précieux, on veut savoir s'il y a des scories, et alors on le passe au creuset. Okay. Il y a une autre des fonctions du Satan qui est de supprimer les tzadikim. Parce qu'il a intérêt à ce que c'est sa fonction. À ce que les tzadikim échouent. C'est-à-dire de faire échouer les tzadikim. Ça s'appelle messite. C'est-à-dire de séduire. De tenter. De tenter. De tenter. Mettre à l'épreuve un juste, c'est une bouche. Mais le tenter, c'est une autre preuve. Donc, d'après notre sujet, c'est que le Satan a intérêt à ce qu'Israël ne revienne pas en Israël. Si Israël revient en Israël, la Shrina revient. Et alors, le Satan a intérêt à ce que la Shrina soit en exil. Vous connaissez cette pensée de Dieu. Quand Israël est en exil, la Shrina est en exil. Vous connaissez ça. Et on ajoute pieusement pour protéger Israël. En exil. Alors, le Satan a intérêt à ce qu'Israël ne revienne pas. Sa stratégie, c'est d'employer les armes qu'il peut. Quelles sont les armes qu'il peut employer? C'est de dire au nom de la Torah. Il y a un midrash beaucoup plus grave que ça. Mais ne me demandez pas de vous dire où il est dans le midrash d'ailleurs, parce que je ne veux pas vous en servir. Le midrash qui dit qu'il arrivera un temps où le Satan s'habillera de Taleb et de Tzili, s'asserra à la place du rocher Shiva et empêchera Israël de revenir en Dieu. Et ce midrash existe. Ah oui, c'est là. Et alors là, et voilà je suis là. Et encore une fois, comprenez ce qui se passe dans le sujet. Dans le sujet, c'est que le Satan n'a pas intérêt à ce qu'Israël revienne en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans la situation de la génération de la sortie d'Égypte? Les Gdolé Israël étaient, eux, ceux qui se sont révoltés contre Moïse lorsque Moïse la rapide, le temps est arrivé d'accomplir la dernière étape de la promesse. Ça va jusque-là? Non. Et comprenez bien que à ce niveau-là, il n'y a aucun dialogue possible. Je crois que il faut faire confiance dans la santé psychique des juifs. Je ne crois pas que cette position psychiquement peut être tenue longtemps. Et c'est tellement anormal que ça ne peut pas ne pas cesser un jour. Être obligé de vivre dans une contradiction pareille que vous rappelez hier soir, Abraham Schwartz vous l'a décrit. C'est un héros, mine de rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à son âge, il est jeune. J'ai très bien connu sa famille. Son oncle a été un de mes élèves à Paris. Il est devenu un des rachis de Shiva de Fublène. Ça vous dit quelque chose, Fublène? Et alors, il a été élevé dans une échelle en Angleterre, c'est pourquoi sa langue culturelle est plus anglaise que le français. Et on l'a envoyé à cette échelle de Meacharim qui s'appelle Toldot Aaron, qui n'a plus de commando, pour se former. Et tout seul, sans recevoir l'influence de personne, avec ce qu'il étudiait dans cette échelle, il a fini par comprendre quelque chose grâce à cette année. Et il a mis longtemps pour s'en sortir.
Le concept du
Satan
ne se pose pas
au concept
du
mariage. Je ne sais pas s'il
y a deux forces.
Oui. Je reprends d'où on est parti. Je reprends la phrase d'où on est parti. C'est Dieu qui vous a donné cette terre. Alors lui, il répond non, Dieu nous met à l'épreuve. Et c'est le Satan qui, la volonté de Dieu, nous met à l'épreuve. Alors enlevez Satan dans l'article qui fait partie du vocabulaire chrétien, le Satan. C'est la Mégatadim qui met à l'épreuve. C'est clair? Et alors ils répondent, c'est le Satan. Ça veut dire, s'ils devaient parler comme les monothéistes, ils disent non, Dieu nous met à l'épreuve que non. C'est clair? Non. Voilà. À partir du moment où Israël est en exil, la Shrina est en exil. Par conséquent, le monde n'est plus sous la souveraineté de la Shrina, mais sous la souveraineté de la Sitra Achra. Et la Sitra Achra, je ne traduis pas, c'est la Midat Adin lorsqu'elle est coupée.